Alors, les femmes du temps de Mozart, et c'est justement ce qui l'intéresse, sont obligées de feindre, de simuler. Elles sont soit enfermées au sérail, soit victimes d'un époux violent et jaloux qui veut se taper la chambrière de sa femme, soit poursuivies par un monstre libertin, et ça c'est intéressant aussi comme situation, etc., etc., etc. Mozart est quelqu'un qui veut que l'amour soit vrai entre les sexes. Il est obligé de constater qu'il est falsifié par la société, que les rôles sont distribués de façon qui ne convient pas aux femmes, notamment, hein, dont il prend la défense, parce que, justement, il prend la défense de la délicatesse, de quelque chose qui est constamment opprimé, droit de cuissage, noblesse qui s'emporte, etc. Donc nous avons ça dans les Noces de Figaro de façon évidente. Et puis, donc c'est tout à fait son thème, ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des sentiments extraordinairement délicats, nuancés, des simulations intéressantes, et que tout ça, amené au jour, va devenir beaucoup plus intéressant que les rôles. Donc, il y a des jeux de rôle dans la société. Ce qui serait intéressant aujourd'hui, c'est de savoir quels sont les jeux de rôle qui sont joués par les uns et par les autres. En tant que romancier, je m'en occupe. Mais là, dans le cas de Mozart au XVIIIe siècle, je crois que c'est quelqu'un qui a été extrêmement intéressé de démasquer ces jeux de rôle a priori. Les hommes devaient être comme ça, puis les femmes devaient être comme ça. Ben non, ils sont pas comme ça, ils devraient être autrement, parce qu'ils sont égaux ou idéalistes, et puis elles devraient être davantage révoltées ou davantage dissimulatrices pour arriver à leur fin. Voilà ce qui est passionnant, mais qui vaut aussi bien pour aujourd'hui.
Oui. Alors, d'ailleurs, plusieurs fois, vous dites que les femmes sont toujours comme ça. Quand vous expliquez que mère, par exemple, d'Aloysia, trouve que finalement, ce Mozart n'est pas digne de sa fille,
le problème
vous dites
des mères.
Les femmes, c'est toujours ça.
Le problème des mères est, par exemple, un problème qui me paraît, en effet, presque transhistorique, n'est-ce pas? C'est-à-dire... Mais oui, non, mais c'est un problème extraordinairement intéressant.
Transhistorique et transhistorique.
Et Mozart sait de quoi il parle. Parce qu'il a vécu avec Madame Weber, mère, dans cette pension de famille qui s'appelait d'ailleurs l'œil de Dieu à Vienne, c'est extraordinaire qu'il ait vécu là, que c'était sans l'adresse, avec trois sœurs, quatre sœurs, enfin, donc il était amoureux de la première, il a épousé la seconde, la troisième, il y en a une troisième qui a chanté le rôle, comme par hasard, de la Reine de la Nuit dans La Flûte Enchantée, il y en a une petite qui s'appelle Sophie qui assiste à son agonie, etc. Donc il connaît extrêmement bien le sujet, on pourrait même dire qu'il s'est installé sur le motif pour voir ce qui arrivait entre les sœurs, d'ailleurs, entre les sœurs, à travers une mère, et s'il a inventé la Reine de la Nuit, je suppose qu'il avait des choses à dire à ce sujet, de son expérience personnelle aussi.
Alors, on va entendre Femmes entre elles. Vous avez choisi...
ça c'est merveilleux, parce
lorsque
que...
Lorsque la comtesse dicte à Suzanne la lettre qui doit
c'est une merveille
tromper le comte.
Oui, elles vont se troubler, là.
Alors, dites voir comment vous entendez ça.
Eh bien, écoutez, ça c'est très
dans
simple.
Dans les noces, bien sûr.
C'est dans les noces. Bon, donc, le comte est invivable, si je peux dire, alma vivable. Et donc, il veut absolument...
Mais vous n'êtes pas en reste de jeu de mots. Vous avez aussi l'enlèvement sur les rails, là, c'était écrit...
Hors les rails.
Non, attendez, le comte est invivable parce qu'il veut absolument... satisfaire sa lubricité sur Suzanne.
Mais non, il est amoureux de Suzanne.
Oui, il est amoureux, enfin, au sens 18e. Quand il dit « je ne suis pas venu là pour faire la lecture », il vient là pour opérer. Amoureux, si vous voulez, dans un sens très précis.
Hein. Non, donc, je ne pense pas dans un sens très précis.
Il veut exercer un droit nobiliaire. Il pense que ça... Bon, peu importe. En tout cas, la comtesse et Suzanne ont décidé de la tirer dans un piège, et la comtesse est amoureuse de son mari, et etc. Et donc, elle dicte une lettre qui va la tirer dans ce piège, et elles se troublent l'une l'autre à l'évocation, simplement par les mots, à l'évocation de ce rendez-vous qui va avoir lieu dans un petit bois, etc. Et c'est une scène d'une finesse extraordinaire, parce que c'est le trouble entre deux femmes qui sont en train de parler d'un homme qu'elles aiment peut-être, l'une sûrement, et l'autre peut-être aussi.
Alors, je vous proposais mon interprétation à moi, qui est un des disques du siècle, Les Noces de Figaro, par Erich Kleiber, enregistré dans les années, je ne sais plus quand exactement, début des années 50, sans doute, avec Cesare Siepi. Et là, on va entendre la comtesse Elisa de la Casa, Suzanne Hildegudden. C'est une pure merveille.
Che tu li proponesti in giardino fissiamne un luogo scrivi
io scriva
ma signore
scrivi
dico e tutto io prendo su me stessa canzonetta sull'aria
Voilà, Lisa della Casa, Hilde Gudon. On appelle ça duettino. C'est peut-être parce que ce sont deux femmes entre elles, elles n'ont pas droit à duetto, c'est un duettino.
Il faut entendre ce qu'elles disent tout ensemble à la fin. Et il capira, il comprendra. Elles sont en train de, voilà, d'imaginer la scène. Et alors, il comprendra. Dites-lui ça, il comprendra. Il saura.
Alors, Philippe Solers, on pourrait parler encore vraiment beaucoup avec vous des heures sur Mozart, avec Annie Paradis aussi. C'est bien. Moi, je trouve que votre duo, votre duettino était parfait.
Donc,
ding dong, ding ding dong.
Le dong dong était un peu plus important que le ding ding, mais bon.
Ah, écoutez, on n'est pas là avec nos montres. Et puis vous avez une émission où vous étiez toute seule avec moi, où il n'y a eu que des ding ding et pas de dong dong. Alors
non,
soyez gentille. Hein. Bon. Non, il nous reste vraiment 3 minutes avant d'entendre avec plaisir le concert du quintet avec clarinette. Je voudrais vous poser 2-3 questions générales sur votre livre Mystérieux Mozart. Alors d'abord, qu'est-ce qui est le plus mystérieux chez Mozart? Le titre, quoi, le sens du titre. Un peu tout, quand même.
C'est l'extraordinaire fécondité diverse. C'est-à-dire, je crois que non, c'est cette production d'opéra. Cette entrée dans les voix comme dans les sentiments. La clé de l'amour. L'amour est mystérieux chez Mozart. Voilà. Et je crois que l'amour doit rester mystérieux.
Alors, question 2. Vous écrivez très simplement avec beaucoup de tranquillité que finalement après Mozart il n'y a plus eu d'opéra et que c'était la fin de tout quoi. Alors est-ce qu'on peut écrire une chose pareille?
Non, je ne dis pas ça comme ça. Je veux dire
en littérature on pourrait pas le dire. De même qu'en littérature, comme quand vous dites qu'il n'y a pas de chant français.
Non, je ne vais pas.
En littérature, on n'oserait pas.
Non, je pose un problème.
Dire une chose pareille.
Je pose un problème précis là, vous faites réagir le public sur quelque chose.
Oh non, je ne voulais pas faire réagir.
Non, mais il faut quand même, excusez-moi de préciser ma pensée. C'est-à-dire que je me pose la question de ce que sont devenus les personnages féminins chantants dans l'opéra après Mozart.
Et je fais appel à Catherine Clément.
Non, je me fais appel à Nietzsche.
La défaite des
Nietzsche,
femmes.
Nietzsche est un personnage très important que j'appelle à la barre. Lorsqu'il réagit à Wagner, donc il y a une mode wagnérienne, vous savez, extraordinaire, on n'a pas le temps de développer. Mais il faut relire Nietzsche contre Wagner avec une position de Nietzsche très pro-mozartienne. Il va même jusqu'à défendre Bizet, Carmen de Bizet contre Wagner. Donc c'est une polémique qui, je crois, peut être utile pour qu'on comprenne pourquoi c'est les Valkyries plutôt que la comtesse et Suzanne. Enfin, c'est vraiment un problème de fond.
Mais vous n'aimez pas ça, je veux dire que vous n'aimez pas Verdi, Wagner. Enfin, en fait,
je pense que ça simplifie trop les femmes.
Avec le fait que. En général, le 19e siècle vous paraît avoir tout
simplificateur
alourdi,
de
dramatisé,
femmes, vrai. Aplatisseur de femmes.
Aplatisseur de femmes, bon, d'accord. Alors vous dites aussi à un moment donné que finalement ça explique qu'ensuite Mozart au 19e siècle n'a plus le droit de citer. C'est pas vraiment, là je ne suis pas d'accord, on n'arrête pas de jouer Mozart au 19e siècle. Non. Mozart est joué partout, il est joué en France, il est joué en Allemagne. Oui. Chopin n'adorait que Mozart.
Oui, mais on l'entendait. Non,
il faut écouter. Mais non, oui. Écoutez, Mozart, il n'a pas été du tout oublié. Ouais. Je veux dire, les romantiques, écoutez, si E.T. à Hoffmann s'est appelé E.T. Amadeus Hoffmann, c'était en hommage à Mozart. Donc au contraire, très rapidement après sa mort, effectivement, on a quand même compris. Alors là, j'ai pas saisi. C'est romantique de votre part. C'est
non,
vous qui êtes romantique.
Il y a une mythologie romantique. Non, je crois que vous m'explique dans le livre à travers le. Il y a toute une construction autour de Mozart, une mythification.
Voilà.
Hein, ça, c'est tout à fait autre chose. Ça n'est pas Mozart pour moi. Ça, c'est l'imagerie. C'est l'imagerie qui est devenue maintenant une imagerie publicitaire.
C'est un faux Mozart.
C'est un faux Mozart que vous trouverez très bien mythologisé dans le petit livre d'ailleurs charmant. Meurig,
le voyage
et vous voyez qu'une jeune fille là est très émue par Mozart et se représente la mort de Mozart, etc. Bon, tout ça c'est la légende. En réalité, moi j'essaye de dire ce qu'il veut dire dans ce qu'il a écrit et dit.
Oui, quand vous dites quand il compose le Requiem, il sait qu'il le compose.
Voilà.
Vous rentrez aussi dans la légende.
Voilà. Oui, mais alors justement, ça aussi, c'est la légende. Et il y a eu beaucoup trop de légendes.
Bon, en tout cas, ce que vous écrivez, c'est
pour un génie sublime.
Vous dites que, etc., que devient le corps humain et son désir, autre chose que Mozart. Seuls quelques héros de la musique de jazz, Armstrong, Billie Holiday, Charlie Parker, etc., peuvent s'écouter directement après Così fan tutte sans qu'on ait l'impression d'une déperdition ou d'une frigidité physique.
C'est bon goût.
C'est vrai quand même que vous.
C'est mon goût. Mais je ne l'impose à personne.
Vous éliminez un siècle et demi l'histoire de la musique génies.
Non, j'élimine rien parce que j'en ai pas le pouvoir, heureusement d'ailleurs.
Non,
mais je dis simplement mon goût. Voilà, je crois que tout le monde doit dire ce qu'il aime. Il me semble que c'est mieux.